La radio de la paix parle de paix aujourd'hui, puisque nous sommes à la journée internationale de la paix. C'est donc chaque 21 septembre de chaque année. Aujourd'hui, nous avons décidé de célébrer cette journée en discutant un peu avec vous, auditeurs, et également avec nos invités. Il s'agit du père Eugène Gossi-Kende. Il est le directeur général du CERAP. Le CERAP, c'est le Centre de Recherche et d'Action pour la Paix, situé à Cocody. Et puis, nous sommes aussi avec Achille Komoué. Il est le président de l'ONG Planète Paix. Messieurs, bonjour, bienvenue à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Eugène Gossi-Kende, vous êtes donc directeur général du CERAP. Le CERAP, pour la petite histoire, existe depuis combien de temps?
Le CERAP, à vrai dire, on peut remonter jusqu'en 1962. CERAP est héritier de l'INADES. L'INADES est très connu.
Oui, bien sûr.
Et le CERAP est venu effectivement dans les circonstances particulières pour répondre aux défis de la paix.
Mmh. Répondre aux défis de la paix. Donc, vous êtes un centre de recherche et d'action pour la paix.
Exactement.
Tout à l'heure, on va parler des actions que vous menez, justement. Nous sommes aussi avec un activiste des questions de paix. Vous êtes président d'une ONG, Planète Paix. Si c'est pas ambitieux, Planète Paix, toute la planète en paix, quand on sait que la réalité est tout autre. Alors, Achille Komoué, pourquoi une ONG spécialisée pour des actions de paix?
Bien, nous avons décidé de créer l'ONG Planète Paix pour faire face aux défis de paix qui avaient cours en son temps dans notre pays. L'ONG est née dans la période de crise ivoirienne. Je pense qu'à l'origine, on avait voulu circonscrire nos actions au niveau de la Côte d'Ivoire, mais nous n'avons pas voulu être égoïstes. Parce que là où nous pouvons aider, il fallait qu'on y aille. C'est pour cela que déjà nous sommes représentés dans 16 pays d'Afrique, au Canada et en Europe, où nos représentants mènent des actions similaires afin de faire vivre le souffle de la paix là où ils sont.
En tout cas, des actions au niveau de plusieurs pays, comme vous l'avez indiqué. Alors, Eugène Gossi-Kende, le CERAP, vous faites de la recherche et vous menez des actions sur la paix. Pourquoi il est important de faire des recherches sur la paix?
Oui, nous sommes à la fois une institution universitaire actuellement, avec des programmes académiques, et certains sont strictement liés à la paix. On a un master en gestion de conflits et paix, qui est un aspect important. Un autre viendra tout bientôt concernant la sécurité et la stratégie, et parce que ce sont des éléments très importants. La paix est devenue aujourd'hui un élément complexe qui généralement implique aussi bien des acteurs internes que des acteurs externes. Et ces acteurs peuvent être de type ONG, peuvent être de type gouvernemental, et il est important de bien connaître et de faire des études approfondies pour mieux apprécier quels sont les chemins qui mènent vers la paix. Les études permettent de clarifier et d'identifier. Et souvent, ce que nous cherchons en définitive, c'est de retrouver les racines, les causes profondes des conflits, des violences, afin de proposer des solutions. Il n'y a jamais une seule solution quand on fait de la recherche. Il y a plusieurs solutions, mais on cherche la solution idoine qui permet de faire advenir le maximum de cohésion au sein d'une société.
Justement, vous avez mené des recherches, vous avez quelques résultats. Quelles sont les causes des conflits généralement que vous notez?
Les causes des conflits sont variables, précisément parce que les acteurs ou ceux qui se retrouvent impliqués sont aussi de différents niveaux. On peut trouver des institutions politiques, on peut trouver, disons, des instances sociétales, on peut avoir aussi des conflits qui sont liés parfois à la gestion des ressources, des questions, par exemple, de la terre, qui deviennent des questions très importantes. On peut aussi avoir de temps à autre des questions relatives à la participation, à la démocratie. Donc, ça veut dire qu'il faut des critères qui permettent au niveau des constitutions, au niveau de la réglementation pour participer. Dans tout cela, il faut vraiment qu'il y ait des possibilités de voir d'où vient le problème. On peut avoir un problème politique, on peut avoir un problème social, et généralement, les deux se combinent. Vous avez des problèmes de développement irrésolus qui sont des sources de mécontentement, et ces sources de mécontentement peuvent se transformer en récriminations, et ces récriminations peuvent se transformer en révoltes.
Voilà ce qui est dit. Et cette année, en tout cas à l'occasion de la Journée internationale de la paix, le thème choisi parle de droit de l'homme. Le droit à la paix, ce sont 10 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, pour vous, est-ce que la paix est une question de droit? Est-ce qu'on a tous droit à la paix? Cela semble évident. Est-ce qu'on a tous droit à la paix, justement?
Bien entendu, pense que chacun de nous a droit à la paix, mais chacun de nous doit créer les conditions de la paix. Parce qu'il ne s'agit pas de dire j'ai un droit à la paix, mais c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir une vie harmonieuse en s'impliquant soi-même. J'allais dire, pour nous, le problème concernant la paix est un problème purement humain. Les problèmes politiques, ça se règle facilement. Les problèmes d'ordre économique, ça se règle facilement. Mais quand il s'agit d'un problème humain ou d'un problème de personne, c'est difficile à régler. Parce qu'on dira, ôte-toi de là pour que je m'y mette. Ça veut dire, tant que la personne se trouve là, alors je suis toujours en violence ou en conflit avec cette dernière-là. Donc, il nous faut chacun à son niveau, ONG, membre de parti politique, responsable de société, tous se mettent ensemble pour que la paix advienne dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que pour nous qui avons vécu la crise de 2010, en tout cas, nous n'entendons plus revivre cette crise-là. C'est pour cela qu'au niveau de Planète Paix, depuis 2017 déjà, nous avons institué le programme international que nous avons appelé, c'est le programme des jeunes champions, qui comprend en son sein des programmes internationaux et des programmes locaux. L'année passée, nous avons eu ici un sommet panafricain. Au cours de ce sommet-là, nous avons parlé de la problématique des élections en Afrique. Nous avons eu 150 participants venus de 17 pays africains et de 3 pays européens. Cette année, en novembre 2018, nous organisons également le même sommet, la deuxième saison, mais sur la paix, la sécurité et le développement durable. Parce que pour nous, il est important que parfois on puisse avoir des acteurs diversifiés d'autres pays afin que chacun apportant donc sa solution ou son expérience, on puisse parvenir à une solution durable. Nous, au niveau local, pour prévenir les crises liées aux élections de 2020, nous avons mis sur place un programme local que nous avons appelé le Peace Digital Elections. Ce programme vise à sensibiliser les électeurs, à les rendre beaucoup plus responsables, à les impliquer dans le processus électoral en les invitant à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Parce que là où les autres décident, ils décideront forcément contre vous. Donc il faudrait que nous tous nous soyons engagés dans ce processus-là pour choisir les leaders que nous souhaitons afin de pouvoir régler tant soit peu les problèmes économiques dont nous avons évoqué tout à l'heure.
Père Eugène, le constat c'est que quand on parle de politique en Afrique, c'est source de tension. En tout cas dans plusieurs pays africains, les élections sont source de beaucoup de méfiance, de tension. Dans vos recherches, comment on peut expliquer cela? Pourquoi il y a autant de passion autour du choix des leaders en Afrique?
C'est vrai que quand on regarde de très près, dans plusieurs pays, les élections sont devenues des sources de conflits. Il suffit de faire le tour d'horizon. Il y a certains lieux où c'est encore très vif, où on cherche à avoir des solutions. On peut voir le Togo, on peut voir le Mali. Il y a un certain nombre de pays où on se rend compte que à l'approche des élections, la tension monte. On peut comprendre d'une certaine manière que la course à la gestion du pays peut être aussi un moment décisif de savoir qui organise le devenir de la vie commune, qui organise la gestion du bien commun. Et donc cette préoccupation-là est portée par les personnes. Et si on n'arrive pas à éduquer, et j'aimerais revenir sur ce qu'il a dit, la paix, effectivement, c'est une question humaine. Et pour qu'on la résolve comme question humaine, pour nous, il y a un élément fondamental, c'est l'éducation. L'éducation de tous les acteurs. Et je dirais même aujourd'hui, il faudrait commencer l'éducation de la paix avec les enfants à l'école. Pour que la possibilité qu'il y a dans la vie, que nous ne puissions pas nous entendre sur un objectif, c'est réel. Mais comment résoudre ces questions-là, ce n'est pas dans la confrontation, mais c'est en s'asseyant.
Sans vous couper, vous êtes un religieux, hein?
Oui.
On prône toujours la paix, l'amour du prochain dans des centres dédiés à Dieu où on parle de l'amour du prochain. Votre message apparemment ne passe pas parce que de fois, malgré ce que les religieux que vous êtes, vous lancez comme message, quand face à la réalité, on voit des comportements comme si ces personnes ne sont tout autres. Pourquoi?
Ça, c'est vraiment une longue histoire. Et il faut dire que dans la vie des religions globalement, le désir de la paix est un désir profond. Si vous remontez déjà au temps d'Isaïe, les images étaient parlantes. On dit que le loup et l'agneau se retrouveront ensemble. L'enfant jouera sur le repère du cobra. Que le lion et le bœuf auront la nourriture commune comme des herbes. En fait, il y a un vœu profond en l'homme de vivre dans la cohésion et dans la paix avec son voisin. Donc la paix est quelque chose de profond. Le religieux, on pourrait se demander, bon, est-ce que c'est des valeurs qu'on prône et qui ne sont pas de ce monde? Les gens agissent autrement. Personnellement, moi, je me dis, ces projections, ces désirs, il faut les réaliser. C'est des invitations à agir parce qu'il faut rendre possible la paix. Et c'est pour cela qu'on a des ONG, on a des acteurs du gouvernement, on a des acteurs dans l'économie, on a des acteurs dans l'éducation qui travaillent de manière à converger pour rendre possible la paix. Ce n'est pas un rêve seulement, c'est une tâche.
C'est une quête perpétuelle. Alors, M. Komoué, vous êtes une ONG partant de cette crise que le pays, et notamment la Côte d'Ivoire, a vécue. Vous avez tiré des leçons de cela et vous essayez d'éduquer les populations. Alors, votre cible, c'est, je crois comprendre, les jeunes essentiellement. Pourquoi vous commencez par les jeunes?
Bien, en Côte d'Ivoire, plus de 77% de la population est constituée de jeunes. Donc nous nous disons que ce sont les jeunes qui prennent les armes. Et comme en Afrique, on parle beaucoup plus avec des images, on dit pour ne pas que le chien mange ou croque les os, il faudrait attacher ces os-là à son cou. Donc pour ne pas que ces jeunes s'engagent dans la violence, nous les engageons dans les actions de paix, à travers les sensibilisations, parce que quand on les forme, on les amène à les restituer sur le terrain. Parce que imaginez-vous que les 77% de ces jeunes-là décident de mener des actions de paix, mais on va dormir en paix.
Mais quels sont les messages que vous lancez à ces jeunes-là pour réussir à créer cette envie de s'engager pour des actions de paix? Qu'est-ce que vous leur dites concrètement?
Bon, on leur dit que la politique est la chose publique. Donc, par exemple, si vous choisissez un mauvais candidat, alors cela va réjaillir négativement sur votre vie. Et on leur pose la question bien souvent de savoir est-ce qu'ils aimeraient vivre dans un état pacifique? Mais bien entendu, la question est oui. Mais on leur demande qu'est-ce qu'ils font à leur niveau. Quand on commence à leur poser ces questions-là, ces jeunes commence à comprendre qu'en réalité, ils ont un rôle à jouer. Et donc, on les amène quand même à pouvoir adapter leur message de paix, quel que soit l'endroit où ils se trouveront. Mais j'allais dire qu'en fait, il y a deux entités qui n'ont pas besoin de paix. Les brutes, il y a les animaux. Et puis, il y a Dieu ou les dieux, parce qu'ils sont déjà en paix. Mais c'est nous, les hommes, qui avons plus besoin de paix. C'est pour cela que quand on agit selon la nature violente, on dit, mais nous sommes une brute. Parce que l'objectif pour nous, c'est de tendre vers l'idéal. L'idéal, c'est quoi? C'est la vie que mènent les dieux. Et Durkheim l'avait bien souligné dans son œuvre La division du travail social, quand il disait que là où règne l'intérêt, chaque mois se trouve, bien entendu, sur le pied de guerre vis-à-vis de l'autre. Ce qui se pose comme problème ici, en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, en ce qui concerne la paix, c'est la question d'intérêt. C'est la question d'intérêt personnel. Parce que si nos politiques s'intéressent au peuple, je pense qu'ils viseront l'intérêt du peuple. Or, là où se trouve l'intérêt du peuple, se trouve la paix.
Mais au-delà de l'aspect politique, hein, nous comprenons que c'est vrai, c'est source de fois de tension. Mais selon un sociologue, et on le vit, hein, dans la vie de tous les jours, il y a des réactions violentes face à des situations. Dans des altercations de fois simples, on voit que deux personnes commencent à s'invectiver et de fois, ça tourne au pugilat. Ouais. Pourquoi la société est devenue comme ça, M. Komoué?
J'allais en arriver. Voyez-vous, Socrate disait dans la République de Platon que mieux vaut éduquer des personnes à bas âge. Parce que parvenu à l'âge adulte, il devient incorrigible. Quelqu'un qui a développé une attitude violente, quand il parvient à l'âge adulte, c'est difficile de corriger ce comportement-là. La personne peut être frustrée parce que l'homme est comme une machine. Toutes les données extérieures à lui influencent sa vie, soit négativement ou positivement. Mais quelqu'un qui a vécu dans un environnement malsain, dans un environnement violent, dans un environnement négatif, emporte cela jusqu'à dans son âge adulte. Du coup, parfois même un simple sourire peut le fâcher, peut le mettre en colère et il peut réagir. Vous voyez? Donc, il faut partir d'abord au niveau des enfants, les éduquer, toucher aussi la jeunesse parce que comme ils ne sont pas encore parvenus à l'âge adulte, on peut encore rattraper cela. Et je pense que si nos autorités, si les ONG, si nos autorités religieuses s'y mettent, nous pourrions parvenir à coup sûr à une société paisible.
Voilà, si vous prenez en marche, nous sommes dans le cadre de notre espace d'échange. Vous avez la possibilité de nous appeler, comme vous le faites habituellement, au 2020 24 91, au 2020 24 92 pour participer à cet espace avec nos invités. Il s'agit du père Eugène Gossier-Kende, qui est directeur du CERAP, le Centre de Recherche et d'Action pour la Paix, et également Achille Komoué, qui est élu président de l'ONG Planète Paix. On parle de paix justement à l'occasion de cette journée internationale de la paix, c'est ce 21 septembre. Alors, célébrons la paix ensemble à travers donc ces conseils qui nous donnent. Père Eugène, on revient à vous aujourd'hui. Pour revenir donc au cas ivoirien, quel comportement adopter par les citoyens pour avoir une paix durable selon vous? Avant que vous répondiez, nous avons un auditeur au bout de fil. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous nous appelez d'où?
Je suis à San Pedro.
San Pedro, hein?
Oui.
Allons-y. pour votre question.
Merci beaucoup, monsieur. Je salue tous les gens qui sont autour de nos tables. Les ONG, les patrons, tous les gens qui sont là-bas.
Ils vous saluent aussi.
Oui. Merci beaucoup. C'est que je dois parler de la paix dans la radio de la paix. C'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, c'est la première fois.
Allez-y, chef frère Zoé.
C'est moi qui dis souvent le mot paix, ça sort dans notre bouche. Les patrons sont un peu fainéants. Et ceux qui doivent nous donner la paix, ils ne sont pas en paix.
Ceux qui doivent nous donner la paix ne sont pas en paix.
Ils ne sont pas en paix. Si je dis cela, à l'heure que nous parlons,
oui.
S'il y avait deux leaders politiques, ils sont en paix autour de vous. Si c'est trois étoiles dans le discours. Mais une fois qu'elle va dans son côté et que l'autre va dans son côté, la paix est limitée. Donc la paix n'a pas en paix.
C'est compris. Merci à l'ami Zoé depuis San Pedro Infidèle. Donc, de cet espace, on résume simplement. Il constate que ceux qui sont en fait les leaders du pays de foi ne montrent pas l'exemple de paix qu'il faut. Donc, bon, ils ont forcément des partisans. Cela peut induire des comportements aussi des populations. Voilà. Et puis, il demandait notamment à l'ONG, est-ce que lui qui prône la paix, il est en paix avec l'humain, il est en paix avec son environnement? Alors, la question vous est posée. Père Eugène, on était avec vous.
C'est vrai, pour contribuer à la paix, pour apporter quelque chose, il faut d'une certaine manière vivre aussi cela. On enseigne à d'autres, on met le poids sur l'épaule des autres et soi-même, on n'est pas engagé dedans. Donc, c'est une interpellation très importante, je crois. Et l'interpellation qui a été faite pour que tous les acteurs de la paix vivent aussi par leur propre vie, témoignent qu'en eux, il y a une certaine sérénité, une certaine expression de la paix. Et dans leur rencontre ou leur relation avec d'autres personnes, qui a aussi cette manifestation-là.
La question de la paix intéresse tous nos auditeurs, c'est évident, sur la radio de la paix. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur, vous nous appelez d'où?
C'est M. Gonébi, il s'appelle Bouna.
Monsieur Gonébi,
Oui.
Gonébi de Bouna, on vous écoute pour votre question ou suggestion.
Vous, monsieur?
Monsieur Jean-Claude Comé.
Comé, comment ça va?
Ça va, cher frère, allez-y.
Je salue vos invités.
Oui, ils sont là. Le père Eugène Kossi Gende et puis Achille Komoué.
Bon, je vais d'abord poser mes deux questions et puis bon, je vais faire un petit développement.
Il n'y a pas de souci, allez-y.
Je voulais leur demander, en vertu de quel principe moral la guerre est-elle un crime ou un péché? Le problème, c'est quoi? Lorsqu'une action militaire est entreprise, par exemple, pour une cause apparemment noble, c'est-à-dire défendre la liberté d'une nation ou libérer les opprimés, c'est-à-dire les gens sont pris en otage. Pour parler de la paix, vraiment, il faut expliquer un peu la définition même de la paix, c'est resté confus. On dit, l'Organisation des Nations Unies, quand ils se réunissent, ils disent, dans les pays en guerre, qualifier l'adversaire de terroriste est une manière de préciser que le mauvais camp, le camp illégitime, est celui de l'adversaire. Et que le bon camp, le camp légitime, est le camp d'appartenance. Mais je veux dire que dans les deux cas, qualifier l'adversaire de terroriste est une mauvaise manière de se légitimer. Bon, en fait, voilà un peu des situations. On n'arrive même pas à définir le mot terroriste. Et puis, un dirigeant qui est élu démocratiquement peut devenir terroriste s'il n'applique pas les lois pour que les citoyens soient meilleurs. Un terroriste peut parvenir au pouvoir. Il y a tous ces éléments-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais leur dire. Pour dire que les gens arrivent au pouvoir, on contourne les lois, les dirigeants même adoptent un comportement bizarre, ils arrivent au pouvoir. Bon, ils sont célébrés dans les églises, quelques fois, mais ils donnent l'argent aux prêtres, ils s'envoient au Vatican. Bon, tout ça, là, vraiment, moi, je pense que nous sommes tous responsables. C'est un peu ma préoccupation. Il y a tellement de choses. Vraiment,
c'est noté, Gonébi. En tout cas, on salue la population de Bouna. Voilà, pour lui, la notion de paix est encore floue. On ne détermine pas c'est quoi la paix, quels sont les facteurs qui favorisent cette paix-là. Parce que, bon, on peut être acteur de paix, mais avant, on a été aussi un acteur de guerre. Voilà, Père Eugène, vous avez quelque chose à dire?
Oui, la paix, je crois que c'est vraiment difficile de définir. Un moment, on a pensé que la paix était l'absence de violence ou bien la cessation d'hostilité. Des antagonistes sont, et que si on arrive à avoir des interventions, on peut aller vers des traités de paix. Il y a effectivement certaines manières de concevoir la paix habituellement aujourd'hui qui ne répondent pas toujours aux circonstances locales. Quand il y a des conflits réels, on peut effectivement taxer une partie ou l'autre, mais la plupart du temps, on demande à ce que les antagonistes s'entendent, arrivent à avoir, peut-être si ça a été un conflit très violent, aller vers des élections démocratiques, ouvrir l'économie et permettre à la société civile de travailler, avoir un état de droit, des droits humains. Je crois qu'il y a cette panoplie-là. Mais au-delà de ça, à mon avis, ou bien avec cela, il faut aussi rejoindre la réalité locale. Et la réalité locale, on la prend à travers certains autres acteurs. Je pense assez facilement à des personnes qu'on n'implique pas souvent, les chefs traditionnels, qui jusque-là avaient géré la cohésion sociale. On pense aussi aux femmes, dont on ne parle pas souvent, qui sont aussi des acteurs décisifs de la paix, à commencer dans la famille. Il y a les responsables religieux, évidemment, qui peuvent, eux aussi, comme d'autres de la société civile, s'ils ne gardent pas la ligne, peuvent se faire corrompre. Et je crois que c'est là que vient la nécessité pour les acteurs de la paix d'avoir ce que je dirais ou je caractérisais d'attitude de sincérité, d'honnêteté et de franchise. Quand ces attitudes ne sont pas là, les gens peuvent toujours nous prendre à défaut. Et je crois que c'est là qu'il y a une responsabilité à avoir. Et je crois que la morale derrière, c'est vraiment à la limite, je dirais, l'intégrité pour toutes les parties en question.
Être intègre, donc avoir l'attitude qu'il faut justement pour départager les belligérants éventuellement ou trouver des solutions. Nous retenons ce que vous avez dit. Alors, justement, M. Komo et Achille, vous, votre technique, c'est quoi? Comment vous amenez vos membres ou ceux que vous sensibilisez à cette notion de paix à réussir à gérer les conflits? Parce que, bon, l'homme est un être qui vit en société. Forcément, les conflits sont liés à sa présence dans la société. Alors, comment on peut gérer les conflits quand ces conflits surviennent?
Bien, merci, M. Komo. Il faut dire que pour qu'on puisse apporter la paix, il faut que soi-même, on soit en paix. Parce que la paix, ce n'est pas seulement une relation entre l'autre et moi. C'est aussi une relation d'avec moi et moi-même.
C'est un peu complexe. Comment on réussit à être en paix soi-même?
Quand l'individu a développé des tendances violentes, c'est difficile pour cette personne-là de régler un conflit. Parce que nous sommes violents. Mais quand on a pu quand même régler le conflit interne et que nous avons accepté d'être des artisans de la paix. En ce moment-là, nous allons adopter les aptitudes qu'il faut pour parvenir à concilier ou à être médiateur entre deux individus.
Justement, pour prendre au mot, comment on se maîtrise? Comment on réussit à calmer le côté violent, par exemple, de l'individu, si c'est le cas? Est-ce que vous avez des techniques?
On peut procéder, par exemple, par lui montrer des films sur la paix. Et généralement, comme nous sommes africains, c'est plus facile d'utiliser le visuel, les vidéos, les images et autres. Quand vous lui présentez par exemple des images d'atrocités ou des personnes qui ont été égorgées, tuées, petit à petit son côté humain va ressurgir. Et il va prendre conscience de ce que certains actes qu'il aurait pu poser dans la société ne sont pas à point nommé. Et à partir de cet instant-là, il va commencer à dialoguer avec l'autre. Parce qu'il y a mode alternative de règlement des conflits. On a parlé de l'arbitrage, la négociation, on parlera même de la conciliation et de la médiation. Mais pour nous, en Côte d'Ivoire, par exemple, on peut utiliser cette quatrième voie-là, la médiation. Parce que dans la médiation, l'élément fondamental ou déterminant, c'est le tiers. Et le tiers n'a pas de responsabilité que de proposer une solution. Son rôle, c'est d'amener les parties elles-mêmes à trouver des solutions utiles pour elles-mêmes. Paix et gêne à dire qu'il fallait utiliser les chefs, les autorités traditionnelles, tout et tout. C'est bien parce qu'à l'époque, leur rôle était vraiment utile et, j'allais dire, nécessaire. Mais aujourd'hui, combien sont les chefs qui sont instrumentalisés? Parce qu'on ne peut pas être arbitre et parti, vous voyez. Parce que si vous voulez faire la bonne médiation au niveau des partis politiques, au niveau de la société tout entière, il faut être à l'écart. On ne vous demande pas d'être un troisième, mais d'être un tiers. Parce que le troisième peut avoir un parti. Mais le tiers, c'est celui qui est carrément en dehors des deux et qui utilise la technique de la maïotique de Socrate. Il pose des questions, il interroge les parties et petit à petit, les parties donnent les solutions. Vous voyez, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est rien d'autre que des intérêts en jeu. Ce n'est rien d'autre que des intérêts de personnes. Si les personnes mettent un peu d'eau dans leur vin, les personnes regardent au peuple, vous allez voir qu'il n'y aura plus de guerre en Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, il faut être amoureux pour parvenir à la paix. Parce que l'amour, c'est un élan vers l'autre.
Voilà, sur cette base, prenant leçon donc de la situation post-électorale vécue par la Côte d'Ivoire aujourd'hui, quel point vous pouvez faire de vos actions? Est-ce que vos messages ont porté?
Ce sera prétentieux quand même de dire que nous avons changé carrément la société. mais nous avons pu apporter notre modeste contribution à l'effort de paix. La plupart des participants à nos activités ont changé carrément leur comportement. Je vais vous donner un exemple. En 2008, en juillet 2008, nous avons organisé un débat à la place Akpilakpilé qui a vu la présence d'un des participants du CIRAP, la Lido, la FESI et autres. Mais tous ceux qui ont participé à nos activités qui étaient FESIS, qui au départ brimaient les uns les autres, mais désormais quand on leur demande d'aller brimer ou d'aller casser ou d'aller mener des actes de violence, ils se retiraient du groupe. Ils pensent que déjà c'est un changement.
Le syndicat continue à manifester.
Oui, le syndicat continue, c'est vrai. Mais voyez-vous, si j'ai reçu à changer 10 personnes, que vous-même vous avez reçu à changer 10 personnes, que le père a reçu à changer 10 personnes, petit à petit, nous allons contaminer les autres par nos actions de paix.
Ah donc, il faut accélérer parce qu'il y a un constat. La situation actuelle, à l'approche encore des élections, on sent une tension dans l'air. La commission électorale indépendante avait identifié une quarantaine déjà de communes qui pourraient être des zones de conflit. Est-ce que cela n'est pas inquiétant, Père Eugène? Quand vous parlez de paix, vous faites la recherche de paix, vous menez des actions, mais on a l'impression qu'on revient à la case départ.
Je crois, que la situation est préoccupante, évidemment, mais il y a des possibilités. Nous, par exemple, on ne travaille pas seul. Ça aussi, c'est très important. Une entité toute seule ne peut pas changer. Le monde ne peut pas changer. Donc ça, c'est vraiment important. Nous travaillons avec des gens comme WANEP, qui sont très impliqués dans l'alerte précoce. Ils se sont réunis il y a quelques jours avec une plateforme pour essayer de voir comment travailler ensemble pour ces élections-là et anticiper et former. Très récemment, j'ai encore rencontré quelqu'un qui est dans une ONG où il pense qu'il faut aussi apprendre aux gens la communication non-violente. La communication non-violente.
Ça se traduit comment?
Disons, la manière dont vous vous adressez aux autres, dont vous voyez les problèmes. Quand vous allez faire vos meetings, vous pouvez insuffler à la fois des attitudes. Et c'est là que ça devient très important. Et moi, je dis qu'il y a une grosse responsabilité pour ceux qui ont une voix et qui affectent le peuple. Ils doivent prendre ces responsabilités très au sérieux. Et je crois que là, on doit pouvoir interpeller les gens.
Dites-moi, pour continuer, est-ce que ces leaders-là viennent prendre des cours chez vous, au CIRAP? Est-ce que vous avez constaté que ces leaders connus ou peut-être pas trop connus viennent de temps en temps se former?
Bon, nous avons pas mal de gens qui viennent à nos formations de toute la frange de la société. Des gens professionnels, à des gens qui ont le désir d'aller dans le monde de la politique, dans le monde du commerce. Nous, nous essayons essentiellement d'avoir un point d'ancrage. C'est de dire à tous, dans notre programme, que la gouvernance va de pair avec l'éthique. Une gouvernance sans éthique va bafouer l'homme, ne va pas regarder les points les plus essentiels de sa vie. Et donc, à ce niveau, c'est une interpellation. On ne force pas quelqu'un à changer. Et je crois que le père de la nation ici disait que la paix est un comportement. En fait, ce n'est pas un vain mot, c'est vrai. Mais le comportement, c'est la responsabilité des individus à se changer et à travailler pour le bien. Donc, voilà comment moi, je verrais cela.
Alors, on va terminer cet entretien. Pour vous, à vous deux, quelles sont les valeurs à promouvoir en société, n'est-ce pas, pour consolider la paix aujourd'hui, avant les élections, pendant même l'opération électorale et puis après, Monsieur Komo et Achille?
Je pense qu'il faudrait être responsable. Comme on l'a dit, pour traiter la question de paix, c'est une responsabilité collective. Il faudrait être pris de paix, d'amour. En quelque sorte, je pense qu'on peut trouver cela dans le Christ, dans les Saintes Écritures, son comportement, même quand on le tape, il pardonne, il prie pour la personne qui vient de l'agresser. Et si nous apportons la morale à nos actions, je pense qu'on va aboutir à coup sûr à une paix durable en Côte d'Ivoire. Rousseau avertissait, par exemple, dans l'Émile, que ceux qui voudront traiter séparément la morale et la politique n'entendront jamais rien à aucune des deux. Parce que la politique ne peut pas poser un pas sans la morale. Si vous le faites, vous devenez dictateur ou tyran. Mais quand vous ajoutez la morale à la politique, en ce moment-là, on parlera de la démocratie. Voyez-vous, le peuple lui-même a vendu son âme.
C'est vous qui le dites.
Oui, nous sommes souverains. Mais d'où vient-il que, malgré notre souveraineté, il y a un groupuscule qui piétine nos droits? Alors même que pendant les élections...
La société est basée sur le choix des individus pour gérer.
Pendant les élections, pendant les élections, nous votons aveuglément. Parfois, nous considérons la tête de l'individu du candidat et nous votons. Allez-y poser la question aux électeurs. Pourquoi ils ont voté? Ils ne savent même pas pourquoi ils ont voté.
Mais c'est le rôle aussi des ONG que vous êtes de passer à l'éducation, justement former.
C'est là que nous, au niveau de Planète Paix, depuis longtemps, nous avons commencé cette action éducative-là. Parce que c'est bien de dire qu'on veut la paix. Mais chaque personne prise individuellement doit prendre son bâton de pèlerin pour sensibiliser qui au niveau de la cellule familiale, qui au niveau de sa commune, qui au niveau de sa région et qui au niveau national. Avec les possibilités que nous avons, c'est vrai que peut-être on n'a pas de ressources, mais on peut faire quelque chose.
On peut faire quelque chose en tout cas. Père Eugène Goussé-Kende, on va terminer par vous. On constate que les activistes de paix, vous qui prenez la paix, vous ne donnez pas assez de voix pour contrebalancer les propos qu'on entend, propos violents. Surtout dans ces temps-là, pourquoi vous ne parlez pas assez aussi pour qu'on entende aussi au même niveau des voix qui parlent de paix? C'est vrai que vous êtes à la radio de la paix, on contribue à cela, mais au-delà de la radio, vous devez aussi mener des actions pour interpeller s'il faut.
Oui, les actions que nous menons jusque-là sont restées des actions de formation, d'éducation, de renforcement de capacités, de collaboration avec d'autres.
Mais ça prend aider. Assez de temps pour implanter les gens.
Maintenant, il faut aussi, je crois que de plus en plus, à intervenir pour pouvoir expliciter, pour attirer l'attention quand il y a des dérives. Je crois qu'il y a aussi cette responsabilité que nous devons assumer un peu plus et on ne l'a souvent pas fait parce que bon, on est resté initialement dans le cadre vraiment de former et de donner la possibilité à ceux que nous avons formés de prendre les devants. Nous n'avons pas pris les devants nous-mêmes comme institution, mais on a toujours été un espace libre où, quelles que soient les tendances politiques, de vision, ils ont toujours trouvé au CIRAP un espace où ils peuvent s'exprimer librement.
Alors, quelques techniques à nos auditeurs dans cette période. Comment être un acteur de paix par son comportement, par ses propos?
Un élément important que moi je dirais, c'est de pouvoir écouter attentivement ceux qui font des projets de propositions de société et de regarder de près s'il y a de la vérité, de la sincérité dans les langages, s'il y a de la franchise. Parce que c'est à partir de là que la personne pourra se faire un jugement et en se faisant un jugement, pourra mettre son vote. Et c'est en ce moment-là qu'il y a la différence.
Comportement citoyen, en tout cas, c'est le conseil du père Eugène Goussé-Kende, qui est le directeur général du CIRAP, le Centre de Recherche et d'Action pour la Paix, et invité donc de cet espace d'échange du 7-12. À côté de lui, Achille Komoué, il est président de l'ONG Planète Net Paix, qui parle de paix, qui forme donc à cette notion de paix. La paix est une denrée importante. Hein, voilà, ce n'est pas aussi l'absence de guerre. Hein, voilà, il faut cultiver la paix. C'est ce qu'on a retenu en tout cas des propos et la Radio de la Paix contribue à sa manière. Voilà, en vous invitant à parler de paix, surtout en ce jour, 21 septembre. C'est important, Journée internationale de la paix dans le monde. Et paix à vous. Et puis, on vous dit merci d'être venu.
Un sincère merci à vous aussi.
Merci
et à tous les auditeurs. Nous disons une bonne journée.
En tout cas, bonne journée. Merci.
Tous.
Voilà, merci à nos amis qui nous ont appelés, ceux aussi Zoé de San Pedro et Gonebi aussi de Buna. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On va continuer cette émission, mais le temps de transiter par la musique pour permettre à nos invités de se retirer.